En direct avec Stéphanie Jaroux. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Frédéric.
Stéphanie Jaroux représente féminin-bio.com et nous avons avec nous Joëlle Le Guenec qui est naturopathe, auteur d'un livre, La Spiruline. Donc nous allons parler, vous l'avez compris, de spiruline. Stéphanie Jaroux.
Bonjour Joëlle.
Bonjour Stéphanie.
Alors place au bien-être et place à la santé. Alors vous êtes effectivement naturopathe, aromatologue et auteur du livre La Spiruline aux éditions Terre d'Homme. Donc vous allez nous parler de spiruline, cette micro-algue qui a des bienfaits inconsidérables sur notre organisme. Alors qu'est-ce que c'est la spiruline tout d'abord Joëlle ?
Alors la spiruline, c'est un des tout premiers végétaux qui sont apparus à la surface de la Terre. Donc il y a bien bien longtemps, on n'était pas encore bien là. Et c'est en fait un végétal qui absorbait le CO2 pour rejeter de l'oxygène. Et c'est la force de tous ces végétaux, de toutes ces formes de végétaux, qui ont finalement réussi à mettre suffisamment d'oxygène sur la Terre pour que la vie puisse apparaître. Donc une cyanobactérie absolument indispensable à la vie.
Alors en fait, on la nomme souvent algue bleue, mais quand on la voit, elle est toute verte. Alors, comment se fait-il qu'on la surnomme algue bleue et qu'elle soit toute verte ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, la spiruline contient plusieurs pigments, une quinzaine de pigments. On a des pigments, on a de la chlorophylle, qu'on connaît bien, qui est verte. On a des bêta-carotènes, qui est orange. On a de la phycocyanine, qui est bleue. Et en fait, c'est cette fameuse phycocyanine qui lui donne son nom. Mais la spiruline, très souvent, prend le dessus. Et puis d'ailleurs, on voit bien que la spiruline n'est pas orange. Et pourtant, elle est très très riche en bêta-carotène. Et vous savez que c'est les flamants roses qui consomment énormément de cette spiruline qui ont un pelage donc rose-orangé grâce à cette bêta-carotène contenue dans la spiruline.
Incroyable.
Voilà, donc cette phycocyanine qui est bleue passe un petit peu derrière la chlorophylle, mais ce qui est très 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 intéressant dans votre question, c'est que en fait une spiruline de grande qualité qui va être séchée d'une manière absolument irréprochable aura une couleur beaucoup plus turquoise que verte. Parce que la phycocyanine est très vite abîmée par l'oxygène de l'air, par la lumière. Et donc la spiruline, qui est plus costaud, va rester plus longtemps.
Donc c'est une manière pour le consommateur, en fait, d'identifier une bonne qualité de spiruline.
Une des manières. Et puis vous remarquerez que si vous laissez traîner un peu de spiruline dans un coin un peu humide, un peu d'eau, un fond de verre, par exemple, et qu'il se trouve à la lumière, et ben en fait, il devient bleu. La chlorophylle disparaît et on voit le liquide devenir bleu.
Bon, impressionnant.
Quel est le principe actif de la spiruline ? J'ai deux questions, en fait. Son principe actif, parce que je vous entends parler de termes assez scientifiques.
dites-moi, j'explique.
voilà, donc il va falloir expliquer ce principe actif. Qu'est-ce qui est recherché dans la spiruline ? Et puis ma deuxième question, c'est où est-ce qu'elle est cultivée ? Est-ce que vous la cultivez déjà ? Ou est-ce que vous allez la pêcher en mer ? Où est-ce qu'on la trouve ?
Alors, première question. Il n'y a pas un principe actif. La spiruline n'est pas un médicament. N'a pas été composé dans ce but. C'est un aliment, c'est quelque chose qui se trouve à l'état naturel. Et les principes actifs, pourrait-on dire, sont extrêmement nombreux. Ce qui fait la richesse de cette algue, c'est en fait qu'elle contient à peu près tous les éléments dont notre organisme a besoin pour vivre. Tous les éléments vitaux qui vont servir de catalyseurs, c'est-à-dire qui vont entraîner un bon fonctionnement de notre organisme. Donc on va avoir une quantité absolument incroyable de vitamines, quasiment toutes les vitamines dont nous avons besoin, en dehors de la vitamine C, de la vitamine D également. Elle va contenir également tous les minéraux dont nous avons besoin. Elle va contenir donc ces fameux pigments qui sont encore mal connus, mais qui sont en phase d'être
exploité peut-être dans d'autres domaines
par des recherches scientifiques extrêmement poussées et on est en train de se rendre compte qu'elles agissent sur des plans complètement inconnus il n'y a pas si longtemps.
C'est-à-dire
des implications sur les cancers, sur les maladies un peu graves, etc. Voilà, donc c'est en cours de recherche.
On en est au tout début de l'exploitation de la spiruline, c'est
non,
ça
non, non, on n'est pas au début, hein. Ça fait un petit moment que ça cherche, mais vous savez bien que les recherches scientifiques sont souvent longues et puis qu'il faut beaucoup de cas cliniques pour pouvoir valider certaines recherches. Donc il y a des résultats que je constate également moi en cabinet auprès de mes patients avec des gens que je suis, mais après il faut une validation scientifique qui n'est pas toujours simple et rapide à obtenir.
Alors, vous êtes naturopathe, c'est ça?
Oui.
Vous prescrivez systématiquement dans tous les cas de la spiruline ou c'est quelque chose que vous gardez de côté dans certains cas? Pourquoi l'utilisez-vous, la spiruline?
C'est une vaste question. Non, ce n'est pas systématique, puisque je me penche à chaque fois sur chaque personne. Tout est individualisé. Mais c'est vrai que la spiruline agit sur énormément de cas. Alors, pour répondre à votre deuxième question, où est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on la cultive? Alors, on ne la cultive pas au fond de son jardin. Encore que on pourrait le faire, mais elle ne serait pas d'une qualité, on va dire, thérapeutique optimum. En fait, c'est une cyanobactérie. J'insiste sur le fait parce qu'en fait, c'est ni une algue, donc ni un végétal, ni un animal. C'est un petit peu à cheval dans les deux mondes. Donc c'est assez étrange. C'est une algue. C'est beaucoup plus facile à plus courant à entendre. C'est une algue qui se développe dans certaines conditions extrêmement précises de température, d'acidité, certains paramètres.
À l'état naturel, on la trouve principalement où?
Alors, dans la ceinture intertropicale, on va
dans
la
l'eau.
Trouver dans l'eau. Oui, elle pousse
dans la
l'eau.
Mer, donc.
Oui, pardon. Non, c'est une algue d'eau douce.
Ah, d'eau douce, très bien.
D'eau douce. Et qu'on va trouver, donc, elle pousse idéalement entre 25 et 40 degrés,
d'accord,
avec une température optimum à 36. Donc, on ne va pas la voir dans son bassin.
Il faut qu'il fasse très chaud,
Il faut qu'il y ait une certaine chaleur. Et puis, c'est des eaux qui sont assez. Qui doivent être assez riches en certains composés, certaines acidités, etc., etc.
Est-ce que c'est une algue, pardon, je vous interromps, est-ce que c'est une algue qui est perturbée par les changements climatiques, par la pollution, ou est-ce qu'elle est encore, je dirais, elle
abondante,
pousse assez facilement
Oui, elle pousse encore assez facilement. À l'état naturel, on la trouve certainement encore beaucoup.
À foison.
Même si elle est exploitée dans les endroits où elle va pousser le mieux, elle va être exploitée pour être utilisée justement. Il y a certains pays qui connaissent la spiruline depuis bien plus longtemps que nous et qui l'utilisent d'une manière plus abondante.
Alors, pour revenir sur les bienfaits que la spiruline a sur l'organisme, effectivement, vous recevez en cabinet des gens en consultation. Quelles sont les demandes ou les attentes justement de vos patients en termes de spiruline? Est-ce qu'ils ont des attentes très particulières sur leur santé ou sur des maladies particulières ou sur des états de santé? Vous êtes enceinte, est-ce que vous-même vous utilisez la spiruline?
Voilà, ça répondra en même temps à une question de Mathilde qui est dans le public sur le stand Féminin Bio et qui nous écoute en direct et qui demandait dans quel cas prend-on de la spiruline? Ça rejoint à peu près cette question-là.
Bah, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, d'une manière générale, les gens qui viennent me voir ne viennent pas me voir en me disant « je veux prendre de la spiruline, est-ce que vous pensez que c'est bon pour moi ?» Même si ça m'est arrivé, où des gens sont venus en ayant lu mon livre, en disant « mais voilà, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes, mais j'aimerais aller plus loin ». Sinon, les gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes, des troubles divers, digestifs, de stress, de sommeil, de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que j'introduis très souvent la spiruline dans leur programme parce que c'est un aliment, encore une fois j'insiste, c'est pas un médicament.
C'est un complément alimentaire. Hein.
J'irais plus vers le côté alicament. C'est-à-dire que il n'est pas transformé, il n'est pas reconstitué. Un complément alimentaire, vous allez pouvoir avoir un complément alimentaire, ça va être un complexe de vitamine B qui va être tiré, je ne sais pas moi, de la carotte, du chou-fleur, etc., et puis remis ensemble. Là, on est sur un complément alimentaire. Alors que sur la spiruline, c'est un aliment complet. Il n'a pas été transformé. La seule chose qu'il a subi, c'est en fait une déshydratation parce que la spiruline fraîche ne se conserve pas. Elle se conserve 24 heures, donc on peut la consommer si on habite à côté d'une ferme qui la cultive. mais pas au quotidien. Donc, c'est la seule chose qui y est. Donc, c'est vraiment un aliment. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, en fait, c'est un aliment extrêmement complet, je vous le disais tout à l'heure, qui est riche en dans tous les éléments dont notre corps a besoin. Donc, forcément, il y a de multiples raisons pour lesquelles ça va être une réponse, parmi d'autres, évidemment, mais pour rééquilibrer un terrain, pour aller combattre la cause profonde de troubles qui parfois se manifestent de manière différente. C'est-à-dire qu'un même problème, une même problématique peut donner chez quelqu'un des troubles digestifs, chez quelqu'un d'autre des troubles du sommeil, chez quelqu'un d'autre des troubles de l'humeur, mais la cause sera exactement la même.
Le déséquilibre de l'organisme.
Voilà,
d'accord. Et elle agit dans ce déséquilibre.
Tout à fait. Et le naturopathe est là pour aller à la cause. Mmh. Ne jamais régler un symptôme, parce que le symptôme n'est qu'un signal d'alarme de notre organisme qui dit « Hé, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et comme on fonctionne différemment et qu'on a des fragilités ou des forces différentes et qu'on a des vies différentes, le symptôme va être différent chez chacun. Donc, le naturopathe va essayer d'analyser où se trouve le problème au départ et à ce moment-là va travailler sur cette cause. Et la spiruline, en effet, va avoir des effets extrêmement intéressants sur l'organisme.
Donc c'est une globalité.
C'est une globalité.
Alors là, j'ai une question encore de notre public, de Manu. Bonjour Manu, qui vient de Lens. Elle vous demande, est-ce que la spiruline agit sur les douleurs et en particulier articulaires ?
Alors, encore une fois, une douleur articulaire est un symptôme. D'accord ? La spiruline n'a pas des vertus antalgiques, comme on dit, c'est-à-dire qui vont calmer la douleur. Par contre, la spiruline, les douleurs articulaires sont souvent dues à une suracidification de l'organisme. Une acidification qui peut être due à une alimentation trop acide, trop acidifiante, mais également à la pollution, également à un excès de stress, en effet, parce que quand on respire mal, on s'acidifie, un manque de sommeil, enfin, énormément de causes. Et cette spiruline va tamponner l'organisme, c'est-à-dire va apporter des minéraux qui vont permettre à l'organisme de se désacidifier. Et donc, en se désacidifiant, il va calmer cette inflammation qui donne des articulations douloureuses. Donc, on va avoir
d'accord,
une action.
On utilise sa propriété, on va dire, globale pour la rendre au service de tout le corps.
Sur le fond de l'organisme, voilà.
Donc, peu importe le mal, finalement, non.
Oui.
Est-ce qu'on en revient toujours au même ? C'est-à-dire que la spiruline, elle passe partout et elle joue un effet régulateur pour toutes les maladies ?
On ne se trompe pas en prenant de la spiruline, en faisant une cure de spiruline, en tout cas en essayant. Et puis après, ce qui est important, c'est de voir sur soi comment ça agit.
Alors, justement, très concrètement, aujourd'hui, je veux démarrer une cure de spiruline ou je veux l'introduire dans mon alimentation. Comment je fais ? Comment je la consomme ? Parce qu'elle existe sous différentes formes, sous forme de poudre, sous forme de gélules, de comprimés. Alors, quel goût elle a déjà et comment on la consomme ?
Voilà, et on répond en même temps à la question de Sylvie, qui est dans le public.
C'était la même question.
C'était la même question, elle demandait comment est-ce qu'on consomme.
La suite.
Avez-vous des astuces pour intégrer la spiruline dans l'alimentation ?
D'accord.
C'est un peu la question de Stéphane.
Alors, la spiruline, c'est pas bon. Franchement, c'est un goût d'algue. Enfin, j'ai rencontré des gens qui aiment énormément ça et qui vont même prendre les comprimés de spiruline compressés à croquer. Donc, formidable. Mais c'est pas la majorité. Il faut
Quel goût ça, la spiruline ?
C'est un goût d'algue. C'est un goût.
Quand on n'a jamais mangé d'algues.
C'est pas
alors.
Amer, c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est un goût de mer, enfin, c'est un goût d'algues. Je sais pas quoi vous dire d'autre.
D'accord, et ça s'ajoute dans quoi ? Alors, très simplement, le plat le plus à même de faire en sorte que, on l'intègre dans son alimentation sans avoir justement à subir le goût si on le trouve désagréable.
Alors, je voulais en venir à ça, c'est qu'on va le trouver en effet sous plein de formes. On va la trouver en poudre, en brindille, ou on va la trouver compressée en comprimé ou en gélule. Alors, personnellement, moi, la gélule, j'aime pas, parce que ça reste encore une pellicule de plus qui est à digérer, qui n'est pas forcément de nature végétale, qui n'est pas forcément bio, etc. etc. Donc, et puis, il n'y a pas une grosse quantité dans une gélule, donc pour avoir une bonne quantité, une quantité suffisante, il faut consommer plusieurs gélules. Donc, ce n'est pas un mode que j'aime beaucoup. Je préfère éventuellement donc, le mode brindille ou papoudre micro-granule. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, ou alors compressé. Alors après, il y a deux solutions. Soit on veut une utilisation simple, rapide, et on va prendre ses comprimés. Et là, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a une association aux compléments alimentaires et limite aux médicaments. Or, c'est un aliment, un alicament, comme je disais tout à l'heure, et c'est chouette de pouvoir l'intégrer dans son alimentation, en fait, au quotidien. Alors, justement, par rapport à son goût, pour l'intégrer dans l'alimentation, il y a des trucs. Il y a des trucs à connaître.
Ah, dites-nous.
Dites-nous tout. Alors, par exemple, si vous l'en donnez, surtout aux enfants qui ont du mal avec ces goûts-là, vous voulez leur en donner, vous préparez des smoothies, tout simplement, le matin, hein, pour le petit déjeuner.
Un jus de fruits.
Un jus de fruits. Alors, si vous le mettez directement en jus de fruits, le goût d'algue est là, il ressort. Ça se sent.
Plus épais.
Les enfants sont redoutables pour ça. Ils vont vous dire, oh, c'est pas bon ton jus de fruits, maman. Je sais pas ce que t'as mis dans mon jus de pomme, mais ça va pas. Hein. Et après avoir fait beaucoup d'essais, je me suis rendu compte que la banane avait le pouvoir de complètement masquer. Merci le goût de la spiruline et de lui enlever ce goût un peu algue. Et d'en faire quelque chose d'un peu velouté. Et en plus, quand on fait un smoothie, donc un jus de fruits avec une banane, on va aussi avoir un petit côté velouté qui est sympathique.
Et du coup, alors le smoothie, il est de quelle couleur? Il est un peu
il
est un
il
peu
est vert.
Il est vert.
Mais ça transforme quand
vert.
Même. Hein,
Oui, oui. Mais alors, c'est pour les adultes, il n'y a pas de problème. Hein. On sait ce qu'il y a dedans, on sait qu'on va se faire du bien, et pas de souci. Et puis pour les enfants, moi, je leur dis, voilà, on va faire le jus de Shrek.
Voilà, ça plaît beaucoup. C'est bien vert, donc.
Ça plaît beaucoup.
Bon, et où est-ce qu'on trouve la spiruline? Parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup traîner comme ça dans les magasins. Comment on se la procure? Est-ce qu'il faut aller voir un naturopathe? Ou est-ce qu'on peut s'automédiquer?
Alors, un naturopathe ne vend pas, hein, donc vous n'allez pas
oui,
le trouver.
Oui, mais enfin, peut-être que vous pouvez le conseiller et puis faire une prescription, c'est pour ça.
Oui, alors c'est vrai qu'un naturopathe ne prescrit pas. Attention, on n'est pas sur du médicament, hein, on est sur des conseils. Mais la spiruline, on la trouve maintenant très très facilement. Dans toutes les boutiques bio, vous trouverez de la spiruline.
Vous avez un ordre d'idée de prix à quel coût on peut acheter la spiruline?
Alors, pour vous donner une idée, on va dire que sur une cure de fond,
oui,
de 3 semaines pour un adulte, on sera à peu près sur un coût d'une quinzaine, 15 euros, entre 10 et 15 euros, en fait. Voilà, à peu près.
Alors, je sais aussi qu'il y a des vertus magiques sur la peau. On peut utiliser la spiruline en masque de beauté.
Ouais, alors la spiruline sur la peau, elle va agir de deux manières. Elle va agir d'une manière interne, puisqu'on a vu qu'elle régulait l'organisme. Elle a des vertus antioxydantes. Elle va détoxifier, va régénérer. Donc forcément, la peau qui est une porte de sortie de l'organisme va se trouver embellie. Donc rien qu'en faisant une cure en interne, vous aurez une plus jolie peau. Et ensuite, en effet, en externe, on peut en effet faire des masques qui vont nettoyer, régénérer la peau et avoir une action antioxydante et presque éclaircissante. C'est vrai que derrière un masque à la spiruline, hein, je suis une adepte.
Vous avez une très belle peau.
comment on le fait le masque à la spiruline? On y ajoute quoi?
Alors, on va utiliser une spiruline en poudre ou un comprimé, enfin ce qu'on a. Et puis, on va essayer de bien le piler pour que la poudre soit la plus fine possible. Et puis ensuite, on va la mélanger avec une huile végétale,
D'amande ou
une huile d'amande, oui. Mais alors, attention à l'huile d'amande. Hein, c'est pas l'huile d'amande douce qu'on trouve en grande surface et qui est en général raffinée. Mais une belle huile d'amande bio. À ce moment-là, oui, on va avoir un effet formidable. Ou sinon, une huile d'argan, une huile d'avocat pour des peaux un peu grasses. Et puis une huile un peu plus sèche, une huile de jojoba, par exemple, pour des peaux un peu plus grasses, enfin, au contraire. Suivant qu'on veut l'hydrater ou ne pas en rajouter. Et puis, on va bien mélanger. Ça va faire une espèce de boue pâteuse qu'on peut éventuellement éclaircir avec un petit peu d'eau. Et puis, on va tout simplement l'étaler sur le visage et la laisser poser 10-15 minutes et puis la rincer après.
Alors là, du coup, on se transforme en Shrek.
C'est exactement ce que j'allais dire, Frédéric.
Là, la première fois que mes enfants m'ont vu comme ça, parce que d'habitude, je reste planquée dans la salle de bain, ils m'ont appelé Fiona pendant une semaine. Donc,
voilà.
Donc, c'est très vert, en effet. Le conseil est de passer à la douche derrière ou de mettre des vêtements qui ne craignent rien, parce qu'il y a vite un petit bout qui tombe. Et en effet, c'est bien vert, donc ça attache un peu.
Et c'est pas mal, parce que là, on est en pleine période de printemps où, effectivement, on a besoin de détoxiner la peau, de sortir de l'hiver. Et effectivement, un masque à la spiruline, ajouté avec une cure de spiruline, ça peut être tout à fait positif en cette période de printemps et de détox. Hein.
Oui, tout à fait. On sort de l'hiver, on a encrassé notre organisme, et on arrive sur une période où forcément on s'occupe du foie. Vous avez tous entendu parler des cures de bouleau, des cures de radis noirs, tout ce qu'on peut imaginer. C'est le moment où c'est le meilleur moment pour détoxiner son organisme. Et à ce moment-là, les pigments qui sont contenus dans la spiruline ont vraiment un rôle à jouer sur la sphère hépatique, sur le foie, sur la vésicule biliaire, et vont permettre de dégager énormément de toxines. Donc, la peau, en fait, n'est qu'un reflet.
C'est le miroir
de l'organisme. Plus vous allez avoir une jolie peau, plus ça prouve que vous n'avez pas un foie surchargé, que vous avez bien, que votre organisme fonctionne bien.
Alors, j'ai cru lire quand même, on en avait parlé avec Stéphanie, on en parlait sur Fréquence Terre, et il y a peu de temps de ça, on s'était aperçu qu'il y avait quand même des contre-indications. Bon, alors, attention, on y va mollo avec les contre-indications, mais je pense qu'il faut quand même le dire. C'est-à-dire que dans quelques cas particuliers, il n'est pas conseillé de prendre de la spiruline. Lesquels ?
Alors, c'est tout à fait juste, mais ils sont très rares.
Voilà, c'est ça
qui est génial.
Donc bon.
En fait, c'est deux maladies qui sont bien particulières et qui ne sont pas... qu'on ne croise pas toujours, mais qui sont importantes à connaître. La première, c'est la phénylcétonurie, qui est
non barbare.
Expliquez-nous mieux.
Alors, ce sont des gens, en tout cas, les gens qui en sont atteints connaissent très bien le nom, donc les autres, ça ne posera pas problème, ne sont pas concernés.
D'accord.
Mais en fait, c'est un problème. Ces personnes-là ne peuvent pas métaboliser un acide aminé, qui est une brique des protéines, qui s'appelle la phénylalanine. Donc c'est vraiment très particulier.
Donc ça se passe au niveau du foie, certainement, non ?
Oui, entre autres.
Qui casse les molécules.
Oui, entre autres. Hein, c'est tout l'organisme qui ne supporte pas cet acide aminé. Mais c'est des gens qui ont du coup beaucoup de problèmes pour manger, parce qu'il n'y a pas possibilité de manger des protéines. Voilà, donc ça, c'est une contre-indication majeure. Et puis on en a une deuxième, c'est que la spiruline est extrêmement riche en fer.
D'accord.
Et en fer qui est hautement assimilable. Et il existe donc une maladie qui s'appelle l'hémochromatose, qui est un problème aussi d'assimilation de fer en trop grande quantité, donc trop de fer dans l'organisme. Et à ce moment-là, on va apporter beaucoup trop de fer. Donc, pas de spiruline dans ces cas-là. Mais c'est vraiment les deux seuls cas.
En revanche, aucune contre-indication pour les femmes enceintes.
Non,
et les enfants, même les bébés, puisqu'on peut rajouter de la spiruline dans les biberons. Hein.
Tout à fait. Et vous savez même qu'on a des programmes qui se montent en Afrique, dans des populations où les bébés sont extrêmement malnutris, où il y a des gros soucis de dos, etc. Et en fait, on réussit à remonter un bébé de très petit poids qui a une espérance de vie très très faible grâce à des cures de spiruline.
On les rebooste à la spiruline.
On les rebooste complètement. En fait, on leur donne la totalité de ce dont ils ont besoin.
Bien
vous
sûr.
Savez que dans la
sauf
spiruline...
Sauf 2-3 vitamines, hein, vous disiez tout à l'heure, la vitamine
oui.
C qui reste à ajouter, et puis...
Et la vitamine D, mais la vitamine D, on l'a créée avec le soleil.
D'accord.
On la fabrique avec le soleil. Dans la spiruline se trouve notamment un acide gras qu'on trouve que dans le lait maternel.
Tout à fait.
Donc elle apporte énormément de belles choses. Donc de la naissance jusqu'à la fin, la spiruline reste quelque chose qui est consommable par tout le monde facilement.
Donc divine spiruline. Hein,
divine spiruline.
Alors j'ai une question quand même avant de terminer de Carmen qui se trouve quelque part dans le public. Elle nous demande, on va voir si ça va marcher, Carmen, donc de Paris. La spiruline a-t-elle un effet minceur ?
Alors, indirectement, hein, tout à fait, comme je disais tout à l'heure,
c'est miraculeux, hein.
Sur les douleurs articulaires.
Ça marche.
Elle a tout bon. En fait, d'abord, il y a un effet détox. Donc, on va éliminer ce qui surcharge l'organisme et ce qui empêche parfois que tout circule bien et qui fait qu'on stocke. Donc, il y a cet effet-là. Et puis, elle a un effet légèrement coupe-faim. Ça, c'est ce qui est souvent recherché par la spiruline. Parce que, en fait, elle va rapidement apporter un sentiment de satiété. Et donc, on va moins manger derrière. Alors, pour ça, il faut la consommer une demi-heure avant le repas. On prend quelques grammes de spiruline avec un grand verre d'eau, par exemple. Et ce qui n'empêche absolument pas, il ne faut pas ne pas manger derrière. Parce que sinon, vous déséquilibrez tout votre système digestif, etc., etc. Par contre, vous allez avoir moins faim, avec des apports intéressants sur des éléments absolument vitaux. Donc, on a un effet minceur indirect, oui.
D'accord, donc voilà la réponse à Carmen qui se posait la question. Bon, Carmen, ça va, vous avez encore de la marge, hein. Ce sera peut-être pas pour vous, mais enfin bon.
Mais c'est donc, vrai qu'en cette période de printemps, être belle en maillot, c'est important. Donc si en plus, elle permet de rester mince,
voilà, d'avoir que demander de plus. Une jolie peau, rayonnante.
Bon, ben voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Donc, la spiruline, est-ce qu'on rappelle quand même le livre ?
Tout à fait. Donc, merci, Joël Le Guenec. Je rappelle que vous êtes auteur du livre La spiruline aux éditions Terre d'Homme. Donc, vous pouvez retrouver des recettes et tout ce qu'on s'est dit dans ce livre. Merci beaucoup, Joël.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Est-ce que vous avez un livre, un site internet, pardon ?
Oui, lapénichejaune.com.
Lapénichejaune.com.
Pas jaune comme la couleur, jaune avec un M.
Ah d'accord, lapénichejaume.com. Et là, vous retrouverez certainement tous les conseils pour la spiruline, c'est ça ?
Entre autres,
d'accord, très bien, merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure, nous, avec Grégory Lesca de Fréquence Terre qui va animer un plateau sur le microcrédit. Et il recevra aux côtés de Stéphanie.
Et oui, toujours moi.
Toujours là, qui reste là. Guillemette Osberg qui nous parlera pour MicroWorld de la façon dont fonctionne le microcrédit.